bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre. Voilà, nous sommes revenus là depuis quelques instants dans Philosophie au présent, l'émission voilà, qui est issue du Collège international de philosophie. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous, chers auditeurs.
Eh bien, on est ravis de vous retrouver et nous allons... Alors, je réfléchissais à ça, Isabelle. Ouais. Cette année, on fait souvent des retours. On demande aux gens qu'on apprécie, dont on apprécie l'œuvre ou le travail, de revenir.
Exactement.
Et c'est le cas aujourd'hui de Marc Goldschmidt, voilà, c'est notre chef.
Exactement, ah, Nathalie.
Comme vous le voyez à notre ton, nous avons très très peur de notre chef. Nous sommes ravis de retrouver Marc Goldschmidt aujourd'hui avec nous, qui est donc président du Collège international de philosophie et directeur de la composante dans la commune Paris Lumière.
Voilà,
grand ensemble d'institutions de recherche.
Exactement, voilà. Nathalie. Et nous le retrouvons aujourd'hui, chers auditeurs, pour un nouveau livre.
Absolument. Donc la dernière fois, je rappelle, on avait reçu Marc pour un ouvrage qui était qui nous avait là encore intéressé, Sous la peau du langage, l'avenir de la pensée de l'écriture. C'était Kimé 2020.
Voilà.
Et là, aujourd'hui, nous invitons Marc pour son autre ouvrage, décidément. Une écriture prolixe, la littérature, l'autre métaphysique qui a paru aux éditions Manutius et qui paraît aux éditions Manutius. Je tourne les pages de mon livre et je regarde immédiatement quelle date précisément. On est en 2020, voilà, les éditions Manutius. Les livres sont très beaux, vraiment le papier est magnifique, la mise en page est splendide. Bonjour Marc, merci d'être venu. Merci. Encore, voilà, bis repetita.
Bonjour Nathalie, bonjour Isabelle, merci de m'avoir invité une seconde fois, si peu d'intervalle.
Oui, la dernière fois c'était en décembre.
En décembre.
Ouais. Hein. Ouais, ouais.
C'est vrai que les deux livres, le précédent et celui-ci, sont parus à quelques mois d'intervalle, donc ça pouvait se justifier. J'espère que ça se justifiera avec l'entretien qu'on va pouvoir... avoir ensemble.
Oui, c'est vraiment très... Alors, pour nous, c'était très important de te réinviter. On va pas faire semblant de se vous soyez, ça ferait un peu bizarre. Hein. On va se dire tu, j'ai beaucoup de mal. Une première question, peut-être pour faire le lien avec la précédente émission et maintenant.
Ouais,
comme on t'a déjà reçu en décembre, comme on vient de le dire, pour ton précédent ouvrage Sous la peau du langage, l'avenir de la pensée, de l'écriture. Moi, j'aimerais te demander quel lien, s'il y en a un, peut-on opérer entre, voilà, Sous la peau du langage et ton ouvrage pour lequel tu es venu spécifiquement aujourd'hui, La littérature, l'autre métaphysique. Est-ce qu'il y a d'abord un lien? Ils ont été écrits à peu près dans le même temps. Il me semble que c'est ce que tu nous avais dit la dernière fois. Pourquoi sont-ils dissociés? Enfin, est-ce que les auditeurs peuvent faire un lien entre ces deux ouvrages?
C'est une question difficile. Ce qui est difficile, c'est toujours lancer les choses, les placer et parvenir en un temps court à dire des choses claires et de manière elliptique. Alors, d'abord, effectivement, ils ont été écrits en même temps, ces deux livres, et ils ont été écrits... dans une longue durée, c'est-à-dire ils sont le fruit d'un travail philosophique, théorique, un travail d'écriture qui est un travail approfondi. Donc j'ai vraiment pas été impatient ou pressé de produire des livres achevés. Il fallait vraiment que je creuse. Ça, c'est la première chose. Le premier sur lequel je ne vais pas revenir longtemps, ouais, puisque vous m'avez déjà invité.
Et que l'émission est en podcast.
Voilà, l'émission est en podcast. On peut trouver aussi le lien sur
le Collège international de philosophie.
Sur la page Facebook du Collège international.
Voilà, donc, sur la page de Radio Aligre.
Voilà, voilà, exactement. Et donc, Sous la peau du langage, c'est une traversée de la philosophie du XXe siècle, on va dire, de post-heideggerienne et post-wittgensteinienne. Donc je me suis principalement concentré sur les théoriciens français, de Lacan, Barthes à Derrida, De Guy, en passant par Foucault, Lévinas. Et donc j'ai essayé de réinterroger pour mon propre compte cette philosophie si féconde et si profonde et si puissante de la première moitié ou la seconde moitié du XXe siècle à travers la question du langage et à travers l'écart à la question du langage par l'intermédiaire d'un travail de ce que j'ai appelé à partir de Derrida, en déplaçant ce qu'il a lui-même conceptualisé, écriture. Donc j'ai essayé analyser, de décomposer, de clarifier le combat de tous ces philosophes avec le langage. J'ai oublié aussi Maurice Blanchot. Et ce que j'ai essayé de pointer, c'est la formation, l'esquisse d'une pensée de l'écriture qui n'a rien d'homogène puisqu'elle est, par exemple, elle peut être déniée chez certains, elle peut être dissimulée chez d'autres, elle peut être exposée, voilà. Et donc ça c'est l'idée générale, sans rentrer dans le détail, de sous la peau du langage. Littérature et métaphysique, c'est presque l'envers ou le revers du livre sur la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, c'est ma manière d'entrer dans la question, l'immense question littérature et philosophie. C'est une vieille question qui me passionne parce que, bon, pour des raisons biographiques et idiosyncrasiques, j'ai longuement hésité entre les deux disciplines au sens scolaire et académique du terme. Et en fait, c'est par la littérature que je suis allé vers la philosophie.
Intéressant.
C'était peut-être un mauvais calcul d'un point de vue académique, mais en tout cas, c'est ma passion pour la littérature qui fait que, je vais dire quelque chose de pas très aimable, en fait, je me suis aperçu à un moment où, au moment où je sortais du lycée, où j'étais encore au lycée, j'entrais à l'université, je me suis aperçu que, en tout cas pour moi, à ce moment-là, et encore longtemps après, les grands critiques littéraires étaient des philosophes ou des critiques de, sinon de formation philosophique, en tout cas de dimension théorique ou métaphysique. Et donc, la question ou le problème littérature-philosophie, pour moi, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est l'élément dans lequel je me meus philosophiquement. Et très vite, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas affronter cette question ou ce problème comme s'il s'agissait de deux champs ou deux disciplines séparées, opposées, qu'il fallait interroger ensuite en les mettant en relation. Je me suis dit que les choses étaient plus compliquées, plus mélangées. Et donc, comme il me semble que l'analyse de la dimension littéraire de la philosophie ou des strates philosophiques de la littérature sont une approche, une méthode, je trouve un peu grossière, j'ai essayé de creuser et j'ai fait émerger ce qui me semble être une autre chose, plus antagoniste. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont... c'est ce qui, dans la littérature, résiste aux philosophes et c'est ce qui, dans la littérature, est proprement littéraire. C'est ça que j'ai essayé de cerner, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de proprement littéraire dans les textes littéraires ? Donc j'ai choisi... Alors, après, il y a un corpus qui s'est dessiné, je vous dirai comment après, mais l'idée de départ, elle est assez simple, en fait. C'est entrer dans les textes littéraires et me demander, mais qu'est-ce que c'est proprement le littéraire ou l'écriture littéraire. Et ma première hypothèse, ça a été que c'est ce qui n'est justement pas du tout philosophique, mais ce qui résiste à la philosophie et ce avec quoi les philosophes ne parviennent pas à s'expliquer, ce qui est une sorte de monstre pour les philosophes, quelque chose d'inassimilable, de voilà.
Oui, alors j'en viens à ma première question relativement à la métaphysique, puisque moi c'est vraiment ce qui m'a intéressée, c'est cette question de la métaphysique. Alors, bon, ton ouvrage, La littérature, l'autre métaphysique, aux éditions Manutius, est un ouvrage qui, bon, dès les premières pages, entre en polémique avec la métaphysique au sens philosophico-théologique. Tu en fais le rappel souvent, à partir des métaphysiques littéraires. Donc, c'est ce qui est vraiment incroyable, enfin étonnant, dans cet ouvrage, c'est l'invention d'une toute autre métaphysique à partir d'écrivains. Donc là, il faut les citer, hein, Boccaccio, Shakespeare, Hölderlin, Flaubert, Kafka, Proust, Conrad, Joyce. Donc, invention d'une toute autre métaphysique à partir de ces écrivains que porte cet ouvrage. Et donc, ma première question, ce serait, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs cette agone, hein, qui arrive dès le départ de l'ouvrage, que tu installes donc dès les premières pages de ce livre, au sens où voilà, cette métaphysique littéraire, elle vient entrer en combat, elle vient déstabiliser la métaphysique telle que l'entend traditionnellement la philosophie, et en même temps tu réclames cette métaphysique, mais qui est tout autre. Et qui d'ailleurs dans l'écriture, c'est intéressant, la majuscule et le minuscule, hein, de ces deux métaphysiques.
Bon, alors là, on commence par la question la plus difficile. Et donc, c'est celle qui... Je vais essayer d'être le plus bref possible, mais je vous annonce que ça risque d'être ma réponse la plus longue. Mais en même temps, ça va poser la suite de la discussion.
On ne peut pas lire cet ouvrage sans avoir un peu saisi ce que tu entends par métaphysique littéraire. À l'inverse ou à l'encontre de la métaphysique classique.
Et puis c'est le concept dans mon ouvrage le plus chargé, le plus difficile, le plus paradoxal et celui qui va certainement susciter chez les lecteurs philosophes et non philosophes le plus de résistance. Mmh. Donc en fait c'est un concept polémique pour moi.
Oui, parce que c'est une encontre mais c'est en même temps une rencontre. Enfin je veux dire... Tu rencontres de nouveau le concept de métaphysique et tu le repenses à l'aune de ces littérateurs.
Alors, je vais dire des choses très nécessairement trop simples, trop caricaturales, mais pas nécessairement fausses. C'est pour la nécessité de l'explication et de la clarification, puisque je suis venu pour ça et puis pour répondre à vos questions. Alors, métaphysique... Ça commence avec Platon et Aristote, c'est-à-dire avec l'invention de la philosophie chez les Grecs. Mmh. Je dirais que, alors on sait très bien d'où vient le mot vient d'Aristote, il vient d'ouvrages, je mets ouvrages au pluriel, qui étaient posés ou classés à côté ou après la physique.
Ouais.
Donc on entend traditionnellement depuis Aristote, et en tout cas quand on relit Platon à partir de cette classification aristotélicienne, on entend par métaphysique tout ce qui transcende ce qui est simplement physique.
Mmh.
Donc en fait, très rapidement, métaphysique va s'identifier, l'histoire de la métaphysique va s'identifier avec l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire à partir du moment où en philosophie, on cherche à penser, comprendre, conceptualiser ce qui excède, on va dire, ce qui relève de la physique, c'est-à-dire de la nature. Et donc, on essaie de penser des êtres comme l'âme, le monde, Dieu, mais aussi bien l'amour, la mort... Tous ces concepts ou toutes ces choses relèvent de ce qu'on appelle, se situent dans ce qu'on appelle la métaphysique. Méta veut dire qu'on est au-delà d'une dimension physique ou naturelle, on n'est plus dans la physis, c'est-à-dire on n'est plus dans ce qui est éclairé par la lumière. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est immatériel est métaphysique.
Mmh.
Donc j'ai envie de dire que... La chose la plus simple qu'on peut dire pour expliquer à des auditeurs qui seraient par exemple pas philosophes de formation, c'est qu'on entend par métaphysique tout ce qui est transcendant et tout ce qui est, on va dire, au-delà, tout ce qui est immatériel, immatériel et transcendant.
Abstrait du réel.
Oui, on peut dire abstrait aussi.
Oui.
On peut dire abstrait. Donc la métaphysique, c'est l'élément de la philosophie.
Mmh.
Sauf que, sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait des centaines d'heures, la philosophie, on va dire, moderne, postérieure à Kant, a été, on va dire, de Hegel, Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, a été un long travail de retournement de la philosophie contre la métaphysique, c'est-à-dire contre une certaine dimension d'elle-même.
Mmh.
Et donc tout ça a eu lieu... à un moment qu'on peut dater d'après Kant.
Mmh.
après la critique de la raison pure de 1781. Donc il y a une espèce de mouvement et de geste philosophique dans des textes qui sont très très différents, hein, que je ne vais pas identifier ou confondre, mais un mouvement de sortie de la philosophie hors d'elle-même et de combat de la philosophie contre ce qu'elle a appelé à partir de Nietzsche, et peut-être même avant, puisque c'est Kant qui est le grand penseur pour moi de la métaphysique, tel que je l'entends, un combat de la philosophie contre la métaphysique. Et ce que j'essaie de dégager au début du livre, c'est donc mon point de départ. Mon livre « Littérature et métaphysique », il prend sa naissance dans une observation qui est la suivante, qu'à l'ouverture du XXe siècle, les philosophes les plus puissants, les plus féconds, ceux qui ont eu le plus de descendance philosophique, ceux qui ont été aussi les plus discutés, je veux dire Husserl, Heidegger, Wittgenstein, ces philosophes, ils ont en commun d'abord d'être dans un rapport à la philosophie très compliqué où la philosophie tente de sortir d'elle-même en se retournant contre soi, tente de se défaire d'elle-même. Et ce geste, il a lieu contre ce que ces philosophes appellent la métaphysique. Et ce qui m'a frappé, à force de les lire et de vivre avec eux, c'est que tout se passe comme si, pour eux et pour les philosophes qui travaillent à partir de cela, tout se passe comme si la métaphysique était univoque, comme s'il n'y en avait qu'une, et tout se passe comme si c'était un défaut ou une faute ou un péché originel. Le péché originel de la philosophie, c'est la métaphysique. Or ça m'a immédiatement posé problème. C'est-à-dire, je me suis dit, mais ça va pas. D'abord, métaphysique, il n'y en a peut-être plus d'une, première hypothèse, plus d'une, donc en plus d'un sens. Et la deuxième chose, c'est pourquoi ce rapport péjoratif, négatif, hypercritique à la métaphysique. C'est-à-dire que ce que je me suis demandé, c'est si on ne perdait pas quelque chose d'essentiel et que j'ai envie de sauver, en fait. Mon livre, c'est un sauvetage d'une dimension paradoxalement philosophique qu'on appelle métaphysique. Et donc, en fait, le point de travail pour moi, c'est Kant. C'est-à-dire que je me suis dit qu'une porte d'entrée vers un autre concept de métaphysique ou une autre métaphysique, auquel je mets un M majuscule, parce que je le considère comme un personnage, comme une femme, comme une reine, c'est Kant, puisque chez Kant, il y a une distinction entre une métaphysique traditionnelle et la métaphysique que Kant identifie à la critique et dont il dit que son chemin n'est pas encore tracé et qu'il faut en quelque sorte la sauver. Et donc j'ai de manière très kantienne, c'est-à-dire dans un geste moderne, je suis parti de d'ailleurs mon livre commence par une réouverture de la critique de la raison pure. Et donc je me sers de Kant comme du penseur d'une métaphysique en un sens qui a été perdu et enseveli par les philosophes postérieurs, j'inclus ceux du XXe siècle. Et à partir de là, je me suis demandé si dans le fond, le geste philosophique du XXe siècle et de la fin du XXe siècle n'était pas un geste profondément équivoque et qu'il fallait envisager à travers un fort soupçon. C'est-à-dire, je me suis demandé ce qu'il y avait là-dedans, dans ces espèces d'unanimité contre la métaphysique. Alors, ma réponse ou mon hypothèse de travail est la suivante, c'est que, en fait, l'écart à la métaphysique chez les philosophes du XXe siècle, il prend l'apparence, ou en tout cas il prend le masque d'un écart à la théologie. C'est-à-dire, c'est ça qui leur pose problème, en tout cas chez Nietzsche, et après Nietzsche, chez Husserl, Heidegger, parlons pas de Derrida et des autres. Et donc, c'est comme si la théologie, elle était, comme le dit le début du texte de Walter Benjamin qui s'appelle « Sur le concept d'histoire », comme si elle était petite et honteuse et priée de ne pas se faire voir. Alors moi, ce qui m'a frappé au cours de ma vie philosophique, c'est à quel point la théologie, je mets des guillemets à « là » parce qu'il y en a aussi plus d'une, me semble surpuissante et me semble très très active à l'intérieur de la philosophie et me semble aussi commander beaucoup de gestes philosophiques, surtout ceux qui dissimulent la théologie. Et donc à partir de là, vous voyez, hypothèse un peu compliquée, hein, la philosophie c'est un jeu d'échecs, hein, on déplace plusieurs pièces. Mon hypothèse générale a été la suivante, c'est que les philosophes que j'appelle aujourd'hui les philosophes du déni de la métaphysique, sont des philosophes dont la pensée est commandée de manière cryptée, dissimulée, neutralisée par la théologie. Et en fait, c'est pour ça que j'inclus Wittgenstein, alors les Wittgensteiniens vont vouloir m'étriper, et Heidegger dans ce que Heidegger appelle l'ontothéologie. Et ce que j'ai cherché dans les textes littéraires, donc j'ai lu les textes littéraires, en me demandant quelle strate d'écriture résister à ça, c'est-à-dire résister à la théologie et à l'ontologie, résister à la collusion des deux, donc à travers la dimension de l'ontologie et de la théologie, c'est-à-dire à travers la dimension du logos. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait comme pensée de la littérature qui ouvrait autre chose, quelque chose qui a été enseveli par l'histoire occidentale de l'ontothéologie. Et donc, pourquoi j'ai appelé ça métaphysique, la pensée littéraire en littérature ? J'ai appelé ça métaphysique parce qu'il y va toujours d'un excès, d'un mouvement infini, d'un mouvement d'hyperbole. Sauf qu'on va plus vers la transcendance, on descend dans l'abîme, on descend vers ce que Kant appelle le transcendantal, c'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est comment et en quoi les textes littéraires se mettent à penser littérairement, c'est-à-dire pas avec des concepts, les conditions de possibilité de la pensée, de la sensibilité, de la vie, comment la littérature va vers la chose, l'inconnu, ce que Freud appelle l'inconscient. Voilà.
Oui, c'est très intéressant parce que, de fait, hein, quand vous partez de Kant, quand tu pars de Kant, pardon, on suppose que cette métaphysique critique à laquelle tu t'attaches est l'impératif de la liberté prescrite à la pensée. Hein, tu le dis à la page 28, chez Kant, au lieu de ce concept, c'est la loi morale, comme impératif catégorique, qui ouvre la connaissance rationnelle de la liberté, en ce qu'elle nous fait penser que la loi ne vient de personne et que la liberté de recevoir la loi se manifeste comme le ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Alors à partir de là, la question que j'aimerais te poser, c'est celle que tu évoques dans ce chapitre sur le romantisme et le plus ancien programme d'une métaphysique de l'absolu. Et là, c'est très intéressant parce que, citant la préparation du roman, ce séminaire tenu en décembre 78, Barthes va rappeler que le romantisme, c'est d'abord une théorie critique et littéraire de la valorisation extrême jusqu'au boutiste de la forme. Alors, j'aimerais que tu reviennes dessus parce que Barthes passe par une pensée du fragment, lui, donc de la fragmentation nécessaire de son écriture. Et à partir de là, on pourrait peut-être se dire que, selon ses propos de Roland Barthes, pourrait situer ce geste métaphysique propre à la littérature dont tu parles, Marc, à ce que Nietzsche analyse lui-même de l'écriture platonicienne. Hein, pour Nietzsche, Nathalie, Platon, c'est vraiment un poète. Hein, c'est-à-dire sur l'origine du bariolage littéraire chez Platon. Tu en parles très bien dans ton livre. Nietzsche va diagnostiquer la pluralité stylistique chez Platon. Et c'est super intéressant, parce qu'à un moment, hein, vers la page 40, tu reprends ces termes et tu dis, enfin, le dialogue platonicien, c'est quoi ? Au fond, c'est un pro-ème. Moi, j'aime bien ce néologisme. Un pro-ème avant l'heure. C'est-à-dire un moyen terme, tu expliques, entre la prose et la poésie. Alors, comment considérer, Marc, ce mélange prosaïco-poématique des genres de la littérature et en quoi ça annonce le roman ?
Alors d'abord, je veux dire une chose qui est à côté, c'est que ce qui est extraordinaire quand on est interrogé sur un livre qu'on a écrit, c'est qu'on est complètement partagé entre l'envie de parler beaucoup pour s'expliquer et l'envie de se taire pour entendre comment le livre qu'on a écrit nous appartient plus et comment il est lu et comment il est emporté ailleurs. Donc je suis partagé entre j'ai envie de parler beaucoup pour expliquer et de me taire pour vous laisser parler de mon livre.
C'est toi l'invité.
Très bien. Alors mais vous le réécrivez en le lisant, vous voyez, c'est ça qui est passionnant. Alors effectivement, le romantisme, c'est pour moi un moment et une masse de textes décisive et complètement ensevelie ou occultée. Par exemple, dans l'analyse et l'explication que j'entreprends des commentaires heideggeriens de certains poèmes de Hölderlin, ce qui me frappe, c'est l'indifférence ou l'ignorance complète que Heidegger semble avoir de la question du romantisme et de la question du rapport ou de l'écart ou de la situation de Hölderlin par rapport au romantisme. Et en fait, mon livre, une des choses dans mon livre, c'est que mon livre est une tentative, la littérature de l'autre métaphysique, c'est une tentative de remettre au centre de la discussion philosophique la question du romantisme et les textes qui ont donné forme, qui ont élaboré ce qu'on appelle romantisme, en tout cas le premier romantisme allemand, qui s'est déployé autour des frères Schlegel, Friedrich et August Wilhelm, et autour de la revue Athénaum. Alors ça a emporté, ça a aimanté beaucoup, beaucoup de penseurs et d'écrivains passionnants et géniaux, notamment Novalis. Et il me semble que c'est vraiment philosophiquement, métaphysiquement et aussi, j'ai envie de dire politiquement, c'est un moment qui me semble décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. D'abord, je vais dire des choses simples. Le romantisme allemand, le premier romantisme, qui naît à peu près au même moment que le plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand, qui est un texte extraordinaire que je commande dans mon livre de 1796-97, qu'on a retrouvé, c'est Franz Rosenzweig qui a retrouvé ce texte en 1917. On a beaucoup discuté de l'auteur de ce texte et il est vraisemblablement écrit de la main de Hegel. Il serait vraisemblablement un texte de Schelling, mais écrit en présence de Hölderlin. Et donc, au même moment en Allemagne, se forme le premier romantisme allemand et la première pensée dialectico-spéculative. En tout cas, c'est la genèse de ce qu'on appelle l'idéalisme allemand. Donc on a, au même moment et en parallèle, deux mouvements qui sont d'une puissance et d'une ampleur infinie et qui, à mon avis, ont en commun la chose suivante, c'est qu'ils naissent dans Kant et ils naissent l'un et l'autre, ces deux mouvements, comme une tentative de soulèvement post-kantienne pour recoudre, pour résoudre la catastrophe qui a été, pour les penseurs allemands de l'époque, la publication de la Critique de la raison pure. Je me suis aperçu en lisant Kleist et Heine que la parution de la Critique de la raison pure a été vécue comme une véritable révolution. C'est Heine qui compare la Critique de la raison pure avec la mise à mort du roi.
La Révolution française.
Voilà, avec la décapitation de Louis XVI. Il dit que c'est un 21 janvier du déisme. Oui. C'est-à-dire que c'est une catastrophe.
C'est très
parce que c'est la mise à mort de la transcendance dans la philosophie. Et Kleist dit qu'il avait, alors pour une autre raison, quand il a lu la Critique de la raison pure, il a été saisi par la dimension complètement tragique de cette pensée par le fait que, j'ai envie de dire, l'ego ne peut plus, le jeu ne peut plus se ressaisir lui-même et donc est scindé de lui-même. Et que là, il se dit que, et il faut, je pense, le prendre très au sérieux, après, à la lecture de la critique de la raison pure, après la lecture, il a éprouvé une profonde, un profond désir de suicide. Ce qui est fou, hein, quand on pense qu'un livre aussi complexe et abstrait peut provoquer un effet affectivo-intellectuel si puissant, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre ? Et il me semble que le romantisme, c'est une réponse à la critique kantienne, à la coupure tragique, à la césure que Kant produit, puisque c'est une météorite, en fait, la critique de la raison pure. Et donc, retourner vers le romantisme, relire les textes des romantiques allemands et de la genèse de l'idéalisme allemand, c'est aussi revenir dans un travail d'anamnèse, qui est le travail des philosophes, revenir vers la dimension à la fois révolutionnaire et tragique et critique de la pensée kantienne, c'est-à-dire sa profonde modernité.
En fait, en t'entendant parler, oui, ce rapprochement du romantisme et de Kant, est-ce que, bon, parce que dans ta métaphysique, hein, bon, on est passé un petit peu vite sur Kant, mais c'est vrai que l'émission va vite et puis on pourrait passer des heures sur la métaphysique, mais il y a moi une phrase qui m'a interpellée aux alentours des pages 16 et 17 de ton ouvrage. Et il m'est apparu que dans la métaphysique que tu repenses, hein, une métaphysique liée à la littérature, liée à une forme d'écriture littéraire très particulière, bon, la métaphysique que tu penses, tu vas la chercher chez Kant, justement parce que il y a peut-être aujourd'hui, et c'est en cela que ton livre est polémique, et polémique encore en soubassement contre le positivisme et le réalisme dont tu parlais la dernière fois, est-ce qu'à travers le romantisme et ton détour par Kant, c'est finalement ta métaphysique ne va pas à la recherche de ce qui a été méprisé, et que tu dis très bien dans ton ouvrage, ce mépris du désir de l'infini. C'est ça que tu vas chercher chez Kant et que tu retrouves chez ces littérateurs que tu étudies. Ça m'avait mépris du désir de l'infini. C'est ça que tu vas chercher chez Kant. Alors là, peut-être qu'effectivement, il aurait fallu refaire un petit topo sur le transcendantal, parce que c'est très beau. Parce que Kant remet la philosophie sur ses pieds. C'est-à-dire, elle ne lui interdit pas au contraire l'infini, mais elle la cantonne dans un certain champ, hein, et elle lui permet pas d'aller dans un autre. Alors quand tu parlais de Dieu tout à l'heure, de la théologie, de l'ontothéologie de la métaphysique, Kant, dans la magnifique lecture que tu fais de Kant, enfin les gens qui n'ont pas lu la critique de la raison pure doivent lire tes pages sur Emmanuel Kant, qui pour moi sont très claires, très vraiment. Mais Kant, c'est tout sauf l'ontothéologie. À un moment donné, d'ailleurs, tu montres bien qu'il le met bien à part, il sépare bien la théologie de la philosophie. Donc, est-ce que tu pourrais, bon, voilà, mes questions sont un peu en vrac parce que j'en avais préparé plusieurs, mais revenir autour de cela.
Mais oui, non, mais vos questions, elles sont d'autant moins en vrac qu'elles convergent ensemble et elles me permettent de. Je peux finir de répondre à la question d'Isabelle, oui, et oui, répondre à la question de Nathalie. C'est le même mouvement. L'idée du romantisme, si on veut la saisir, en tout cas au moment où elle surgit, par exemple dans le plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand, si on veut la saisir sous une formulation dense et elliptique, ce serait la suivante. C'est qu'il s'agit de sauver, il s'agit d'un sauvetage du sujet. Et l'idée, c'est que le sujet ne peut être sauvé qu'en étant porté à l'absolu. Parce que le sujet chez Kant, il est scindé de lui-même. Il ne peut plus se ressaisir, il ne peut plus s'approprier. Donc il y a notamment dans mon livre la question de l'appropriation, elle traverse le livre. Et donc, les romantiques, on les reconnaît à la chose suivante, c'est que c'est l'œuvre d'art qui permet l'exposition de ce sujet porté à l'absolu. Et donc l'absolution du sujet, qui lui permet de se ressaisir et de surmonter la catastrophe tragique kantienne, qui est une catastrophe critique. Elle a lieu dans la forme de l'art. Et c'est pour ça qu'il va y avoir chez les romantiques un surinvestissement de la question de la Dichtung, c'est-à-dire de la poésie, entendue comme chant. Et ce que pensent les romantiques, et là il y a une espèce de convergence entre les philosophes, Schelling, Hegel, Schmölderlin à l'écart, et les frères Schlegel et tous ceux qui ont gravité autour de la revue L'Athénaum, la convergence, elle se fait sur le désir de créer une nouvelle religion qui est un catholicisme pour notre temps. Donc le programme romantique, c'est le programme catholique repensé. Repensé, c'est-à-dire à la fois évidé du catholicisme, donc c'est très étrange, c'est très équivoque aussi. Hein. Ce programme est celui de recréer une religion populaire esthétique, par une effervescence des affects. Donc il s'agit de faire que l'œuvre d'art, elle donne au sujet, elle donne accès au sujet en le portant à l'absolu. Ce sujet, il prend la forme de l'œuvre d'art, et en prenant la forme de l'œuvre d'art, le sujet devient communauté populaire esthétique. Voilà. C'est ça le programme romantique, c'est le projet politique ou esthético-politique d'une religion populaire esthétique, donc où l'effervescence des affects va s'accompagner, se conjuguer avec ce que les romantiques, en tout cas les frères Schlegel et aussi en même temps et parallèlement Schelling et Hegel, appellent une nouvelle mythologie. Et ça, ce qui est frappant dans ce programme, qui pour moi s'accomplit dans Wagner, hein, et dans le projet wagnérien d'une œuvre d'art intégrale, Gesamtkunstwerke, une œuvre d'art qui recueille toutes les œuvres d'art, et dans laquelle d'ailleurs on retrouve le concept ou l'idée de poikilos, c'est-à-dire de mélange, de bariolage. Hein, chez Wagner, Nietzsche dit de Wagner qu'il est un dilettante, qu'il touche à tout, et que c'est pour ça qu'il invente le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire une œuvre d'art qui va totaliser toutes les œuvres et qui va être une espèce de collection. Et alors, le bariolage...
Oui, c'est là que...
Ah, le bariolage. Le bariolage est équivoque, surtout si on entre dans la question du bariolage par Barthes. Et Barthes, je me suis aperçu après coup, après avoir écrit ce livre, Barthes apparaît à plusieurs moments, parce que j'ai une admiration pour Barthes, et je pense souvent qu'il faut aller voir ce que Barthes dit pour entrer dans les choses, en tout cas dans les choses littéraires. Et je me suis aperçu qu'à chaque fois que je le citais, finalement, j'étais en désaccord ou en dissensus avec lui. Et sur la question du bariolage, Barthes pense le roman comme un mélange de tous les genres. Et donc, il pense le roman... il pense que le bariolage, le poikilos, c'est l'opérateur... Du roman et du romantisme, du roman romantique. Je suis pas sûr que ce soit absolument vrai. Je suis pas sûr. C'est à la fois vrai et profond, et en même temps, il y a certainement quelque chose dans le bariolage qui est monstrueux pour le romantisme, c'est-à-dire qu'il peut pas faire œuvre. Quand justement, ça part non pas en fragments, puisque les romantiques sont des penseurs du fragment, mais ça part... j'ai envie de dire en ruine, hein. En morceaux au sens de Benjamin, c'est-à-dire en vase brisé qu'on ne peut pas recollecter. Et donc, je veux dire une dernière chose, c'est que pourquoi Kant dans le fond, et pourquoi est-ce qu'un ouvrage qui commence par Kant traverse des textes littéraires qui vont de Homère à Joyce? Eh bien, parce que dans le fond... Kant, c'est le philosophe qui ouvre la modernité en philosophie. C'est le philosophe de la modernité que j'entends comme césure critique de l'histoire. Et il y a me semble-t-il, deux manières d'entendre la modernité. Soit on l'entend de manière chronologique, comme ce qui est postérieur au classicisme et au romantisme, et donc la modernité, c'est ce qui va à la fois achever, accomplir le romantisme et l'interrompre. Soit on l'entend de manière anachronique ou dyschronique, la modernité, comme le mode de la césure critique, comme le mode de la rupture, comme le mode de la rupture, de la brèche, de la blessure. Et de ce point de vue-là, je me suis dit que, dans le fond, Homère était moderne par rapport à Platon. Shakespeare, moderne par rapport à Descartes. Voilà, c'est pour ça que je remonte jusqu'à Homère, parce que Homère, et notamment l'Odyssée, puisque c'est l'Odyssée qui m'intéresse, c'est le texte littéraire qui va, plus que tout autre, poser la question du sujet, la question qui, et la résoudre par qui, personne.
Et j'ajouterais un homme, Ulysse, constamment sur le départ. C'est très ambigu, la position d'Ulysse, même quand il revient à Ithaque. Parce que est-il revenu pour rester, ou ce retour est-il un nouveau départ pour Ulysse? Donc, au fond, dans ce que tu dis, Marc, du romantisme qui refuserait toujours en deçà de lui-même et n'arriverait qu'à échouer, il y a cette césure du sujet, césure que l'on peut lire comme une mise en abîme de la subjectivité, en cela qu'elle serait à elle-même son propre mouvement dans une dynamique où l'on retrouverait en quelque sorte le geste littéraire d'Yves Bonnefoy. C'est-à-dire ce geste que l'on retrouve dans du mouvement et de l'immobilité de Douve, justement, mouvement, immobilité, dans les planches courbes, jusqu'au terme de l'écharpe rouge, qu'il écrit avant de décéder, il y a quelques années. Et donc là, on est justement, comme tu le disais très clairement, dans le fait, je cite Bonnefoy, que le salut n'est qu'au prix de la destruction. Il y a qu'il fallait détruire et détruire et détruire, il y a que le salut n'est qu'à ce prix. Alors, d'où je parle, c'est ça qui revient aussi derrière, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand tu défriches la notion d'écart chez Boccace, avec le travail de la peste, justement, de 1341.
Je te propose, Isabelle, de faire une petite plage
avec
musicale
plaisir,
et
Nathalie.
On repart sur Boccace à l'instant, ouais. Après cette petite respiration musicale.
Merci.
et c'était Les Impromptus de Schubert, opus 90. Voilà. C'était le festival, ça a été enregistré lors du Festival international de musique de Besançon le 16 septembre 1950. Voilà, on redémarre sur Bocage. Et Marc, tu voulais répondre à Isabelle.
Alors, très. Mon livre est aussi tendu entre Homer et Joyce. En fait, le livre s'arrête sur une relecture d'Ulysses, cette réécriture parodique de l'Odyssée, qui est en même temps complètement autre chose que l'Odyssée d'Homère. Et ce livre s'arrête sur le seuil de la modernité. Ce que je dirais par rapport à ce qu'a dit Isabelle, c'est que dans... Je vais dire une chose paradoxale, parce que c'est ça la philosophie. C'est ce qui se meut dans la dimension du paradoxe. Dans l'Odyssée d'Homère, hein, je mets des guillemets à Odyssée et à Homère, je m'en explique dans le livre, d'une certaine manière, Ulysse qui veut dire, qui se dit en grec Odysseus, donc Odyssée, Odyssée ne revient pas. Mmh. Il ne revient pas parce que ça n'est pas le même. Hein. Mmh. Ça n'est pas le même, il est méconnaissable. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de son prétendu retour. C'est la question de la reconnaissance. Oui. Qui le reconnaît
et le chien.
Le chien, le porcher, la nourrice a une cicatrice. Sa femme ne le reconnaît pas. Son fils ne le reconnaît pas. Son père le reconnaît à son nom. Son nom, je vous rappelle que c'est Odysseus. Et que Odysseus, c'est dérivé de Outis et de Oudeis, c'est-à-dire de qui et personne. Et donc, en fait, tout le livre est piégé ou est un labyrinthe à l'intérieur du nom de qui et du nom de personne. Donc, quand le texte dit à la fin que le père reconnaît son fils à son nom, c'est plus qu'ironique. Ironique veut dire que ça s'autodétruit. Donc, il y a une espèce d'énigme. Merci. Donc, je dirais que dans l'Odyssée d'Homère, cet auteur inconnu, cet auteur inconnu, Homère. Oui. Dans l'Odyssée, Ulysse ne revient pas. Et j'ai envie de dire que dans Ulysses de Joyce, Léopold Bloom ne part pas.
Et oui, c'est très intéressant.
On ne part pas, on ne revient pas. Donc je réponds de manière beckettienne.
Oui, c'est ça. C'est très intéressant hein, ce que tu dis parce que ça rejoint complètement la thèse de ton livre, au fond. Hein, cette autre métaphysique en littérature, ce que tu énonçais dans les 5 premières minutes de l'émission, ce monstre pour la philosophie, cet inappropriable hein, qui revient comme un leitmotiv dans ton livre, eh bien, on le retrouve avec Boccace, justement. Alors, j'aimerais revenir là-dessus et sur ce que tu dis, sur la question que pose le Décaméron de Boccace, justement. Hein. On avait parlé avec Nathalie. Comment trouver une issue critique au monstrueux, étrangement inhumain ? Et là, je te cite, Boccaccio esquisse, dis-tu, une réponse par son livre qui procède d'une feinte rhétorique et d'un glissement métaphorique et hyperbolique beaucoup plus que d'un travail du négatif. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce glissement, Marc ?
C'est difficile de revenir
d'autant
sur ce
glissement. D'autant plus que tu as très peu de temps. Ouais.
Voilà, j'ai très peu de temps. Je dirais...
Je te mets un petit peu sur la piste. Et tu dis que la peste, c'est un anéantissement qui césure le temps et terrifie le regard.
Oui, je vais répondre de manière elliptique, sans faire trop de jokes, sans faire trop de mauvaises blagues. D'abord, tracer un pont entre ce que je viens de dire de Homère et de Joyce, de l'Odyssée, du Ulysses et le Décaméron. Dans l'Odyssée et Ulysses, on est dans l'écriture littéraire, elle descend en quelque sorte dans le fond abyssal du sujet. Dont le fond abyssal est inhumain et énigmatique et inconnu du sujet. Il s'agit en quelque sorte de chercher l'ombilique. Joyce appelait ça l'omphalos, l'ombilique des rêves, de la pensée, de l'existence. Le Décaméron, c'est un ouvrage extraordinaire de 100 ou 101 nouvelles Et donc j'ai essayé de montrer comment c'était un livre qui pensait la nouvelle et la novélité, la nouveauté, et que c'était vraiment une question littéraire. Et le début du Décaméron, le Décaméron commence par une description de la peste. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette peste en dehors de l'événement historique catastrophique qui a frappé l'Italie et une partie de l'Europe. Et c'est vraiment le monstre, la peste. C'est pire que Charybde et Scylla. C'est quelque chose de irreprésentable, de monstrueux. C'est la puanteur dans les villes, c'est les cadavres qui s'accumulent, c'est la terreur aussi. C'est quelque chose qui frappe le visuel. Et donc, que ça figure au front ou au fronton d'un livre, c'est tout à fait saisissant, puisque le livre raconte que des jeunes gens se retrouvent par hasard dans une église qui s'appelle Santa Maria Novella, Sainte Marie Nouvelle. Et je tiens à dire que Marie est aussi importante que Nouvelle. Est-ce que ce qui est saint là-dedans, c'est autant la Nouvelle que Marie. Et se forme une brigade qui va s'échapper dans une espèce de lieu de campagne utopique et merveilleux où ces jeunes gens vont réapprendre à vivre en se faisant des récits très très étranges, très beaux, très étranges, très complexes aussi, où il y a une métaphysique de Eros. Il y a toute une métaphysique qui se dessine d'une nouvelle à l'autre, dans laquelle notamment la rhétorique et les feintes rhétoriques sont décisives dans les relations érotiques. Mmh. Et aussi, il y a par exemple tout un jeu aussi avec une autre divinité ou une autre instance, je ne sais pas comment appeler ça, qui s'appelle Fortuna. Et ce livre est un chef-d'œuvre, qui est aussi un chef-d'œuvre pris dans une rivalité avec le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, qui est la Divine Comédie de Dante. Et donc voilà, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ce livre et quelle est la pensée littéraire qui se trame et quelle est ce que j'appelle la métaphysique, c'est-à-dire la pensée qui relève à la fois de l'infini, de l'hyperbole, et qui cherche à travers l'infini et l'hyperbole la condition de possibilité de la liberté, de trouver la liberté par la littérature.
C'est... Isabelle, je vais te demander quelque chose de vraiment pas très gentil. Mais il faut qu'on termine l'émission avec la lecture d'une page du livre de Marc. As-tu une page préférée du livre de Marc que
oui.
tu voudrais lire
qui
à nos auditeurs?
Qui va dans le sens de ce que Marc vient de dire,
voilà.
pour qu'on ne perde pas le fil avec ce que
voilà.
tu as énoncé. Marc, le Décaméron, eh bien, le Décaméron ne s'installe pas là où l'ordre tombe, dit Marc. Dans une très belle page que j'ai beaucoup aimée, le Décaméron se réfugie à côté, à l'écart, sans installation. Cet écart est une parade littéraire de la vie et de la jeunesse. Elle n'est jamais un retrait ascétique et de pénitence, hors du monde, entendu moralement, comme espace mondain. Il n'y a pas de hors-monde, et les chimères littéraires qui occupent les journées des jeunes gens pendant 2 semaines et 10 journées, de l'aurore à la tombée du jour, ont pour principal horizon de les divertir. Elles constituent une littérature du frivole qui cherche à faire rire les dames et à leur redonner le sourire. Merci beaucoup, Marc.
Merci beaucoup. Et alors, voilà, Radio Alix va être ravie parce que pour une fois, nous avons terminé un petit peu à l'heure, même un peu en avance. Merci, Marc, d'être venu. Marc Goldschmidt était venu aujourd'hui nous parler de son ouvrage « La littérature, l'autre métaphysique » qui a paru aux éditions Manutius. Le Collège international de philosophie fait partie, voilà, des institutions qui ont permis l'édition de cet ouvrage et aussi la commu. hein, voilà, à laquelle Université Paris-Lumière, à laquelle appartient le Collège international de philosophie. Et nous recevions son président et directeur du Collège international de philosophie, Marc Goldschmidt. Je pense qu'il y aura, je ne sais pas comment on dit, après bis repetita, enfin il y aura, je pense que tu vas revenir l'année prochaine. Nous signalons à nos auditeurs que le calendrier est en ligne sur Radio Aligre et nous vous invitons, chers auditeurs, à aller voir le site du Collège international de philosophie. Vous voulez écoutez Marc Goldschmidt, allez-y, c'est gratuit. Nous sommes la seule institution non payante en France qui délivre de la recherche de très haute volée. Et puis il y a aussi Isabelle Raviolo. Tu fais quelque chose ce semestre? Tu as fait des choses sur Zoom au Collège international de philosophie. Allez pianoter sur le site du Collège international de philosophie. Écoutez ces chercheurs qui sont là pour vous, dans la pure gratuité et le don de la pensée. C'est pas mal, non?
Oui, hein, merci Nathalie.
Merci beaucoup Marc d'être venu et merci aux techniciens.
Merci à vous.
Théo et puis Antonin, c'est ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir été là.